Et nous débutons une nouvelle semaine au cœur du Limousin dans un site que nous allons vous inviter à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. C'est la Cité des Insectes. Nous sommes ici installés à Ned, au lieu dit Chaux précisément, au plein cœur du Limousin. On va situer les choses dans un instant avec notre guide Régine Elliott qui va nous accompagner tout au long de cette semaine, qui est la directrice de ce site depuis ses débuts, mars 2006, installée ici. D'abord, un mot sur cette belle histoire parce que ce musée n'est pas arrivé par hasard. C'est votre volonté, vous nous racontez un petit peu comment tout s'est passé?
Oui, nous sommes arrivés effectivement en mars 2006 de Londres, où nous étions installés, et on cherchait depuis une dizaine d'années un lieu pour pouvoir s'installer et parler autour de l'environnement et de l'insecte, de cette nature qui nous intéresse, mais de manière scientifique et artistique, puisque je suis moi-même plasticienne, artiste plasticienne.
C'est-à-dire que vous étiez sensibilisée à cet univers naturel, l'environnement, c'est quelque chose qui vous a toujours passionnée?
Toujours passionnée. Je suis née en Normandie, dans la campagne, on va dire, dans une ferme, et j'ai toujours couru depuis mon plus petit âge, je veux dire, après les petits insectes. Et j'ai aussi la chance d'avoir un instit très bien en CM2 qui nous a fait découvrir, qui m'a fait découvrir les fourmilières et toute autre petite bête de manière très pédagogique, et j'ai beaucoup apprécié son travail.
Donc, envie d'en faire un site vraiment, vraiment vivant, ludique, c'est ce qu'on va voir tout au long de la semaine. Et ce site, il existait, mais il n'avait pas cette fonction au départ.
Oui, au départ, c'est un apiculteur qui s'est installé ici en 87. Mike est anglais et il a beaucoup aimé ce lieu, et lui, apiculteur, il cherchait une idée pour vendre ses produits de la ruche, en fait, et à partir de 92-94, il a commencé à travailler avec le public en parlant de son travail d'apiculteur et du fonctionnement de la ruche. Et puis, petit à petit, il a développé ses collections autour un petit peu plus de l'insecte pour intéresser plus de monde. Et nous sommes arrivés en 2006.
Alors, vous avez repris ce site et vous avez voulu voir les choses un petit peu plus grand, un petit peu plus large.
Oui, parce qu'on voulait intégrer des choses qui nous intéressent comme l'art, comme le travail des naturalistes. On a développé les collections, bien sûr, et puis on s'est créé vraiment comme musée consacré aux insectes avec les résidences d'artistes et tout ce qui suit derrière.
Alors, on le précise tout de suite, on n'est pas sur un musée avec trois pièces qui se battent en duel. Le site est absolument immense. On situe pour ceux qui ne sont jamais venus.
Oui, effectivement. Il faut, quand on vient chez nous, prévoir au moins 2 heures, voir les familles viennent à la journée avec le pique-nique pour passer un bon moment.
Voir plus, puisqu'il y a même des chambres d'hôtes si on veut rester découvrir le musée et tout ce qui est autour, sur le secteur de Ned.
Oui, c'est vrai. On a développé même avec les chambres d'hôtes, puisque, premièrement, on avait le devoir de recevoir nos résidences d'artistes et de naturalistes. Donc, quand ces gens-là sont chez nous, eh bien, ils restent dans nos chambres d'hôtes. Et puis, ces chambres d'hôtes ayant été créées dès notre arrivée, eh bien, on a décidé de les louer. Et maintenant, les familles viennent à la semaine, viennent au week-end pour découvrir la Cité des Insectes et pour découvrir l'environnement autour, lac de Vassivière et toute la beauté naturelle qui nous entoure.
La superficie du site ?
La superficie du parc est de 8000 m². Au niveau musée, on est sur 2 étages, sur 400 m² de collection.
C'est vraiment un lieu pour tous les âges.
Oui, je dis toujours, pour venir chez nous, il faut savoir marcher, il faut avoir entre 3 ans et 99 ans.
Et c'est un univers, c'est des insectes qui intéressent, qui attirent la curiosité ?
Ah, tout à fait. Nous ne sommes pas des scientifiques, des entomologistes pointus comme ceux qui sont sur le terrain en permanence. Mais notre rôle, justement, c'est de transmettre la connaissance des scientifiques à un public enfant et adulte, et de faire tout ça de manière ludique, intéressante, artistique.
Alors, avant de découvrir tout cela et de parcourir le musée ensemble toute la semaine, votre petit chouchou à vous, en tant qu'amoureuse de la nature?
Ils sont tous merveilleux, mais c'est vrai que moi, j'ai une petite tendance à vraiment aimer beaucoup les phasmes, dont les phasmes feuilles et les phasmes tiaratomes qu'on va découvrir tout à l'heure.
Notre deuxième rendez-vous installé ici à Ned, je le rappelle, tout au long de cette semaine à la Cité des Insectes, en compagnie de Régine Elliott, qui est la directrice des lieux depuis sa création, c'est-à-dire depuis mars 2006. On a parlé de la belle histoire du lieu. On va maintenant cheminer au travers du vaste site que vous nous proposez, qui démarre ici. Alors, on est dans ce qu'on appelle le cabinet des curiosités. C'est un terme qu'on connaît. Qu'est-ce que ça cache concrètement?
Eh bien, le cabinet des curiosités, on va dire, se représente les premières collections européennes qui ont un rapport avec la nature. C'est-à-dire, ce sont nos rois et nos nobles qui, à partir du XIVe jusqu'au XVIIIe siècle, vont dans leur château, dans leur demeure, consacrer une salle à l'étude de la nature. Et on collectionne, bien sûr, tout ce qu'on trouve en Europe, plantes et animaux, tout ce qui va nous être ramené par les explorateurs, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, puisque c'est la période où on va découvrir tous ces pays.
Alors, un mot pour ceux qui n'ont pas l'image en attendant de vous rejoindre sur ce qu'on peut découvrir ici. On a des bocaux, on a vraiment l'impression d'être dans des films avec ces animaux dans le formol. On a aussi des minéraux autour de nous.
Tout à fait. On va retrouver, comme je disais, un petit peu les plantes. On va retrouver même les minéraux qui sont fascinants, des fossiles. On va retrouver des mammifères, des poissons, des oiseaux, un environnement un petit peu comme ça qui fait peur, mais qui est fascinant parce qu'il y a plein de choses vraies et fausses.
À nous de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est le coup d'envoi. Et puis ensuite, on va cheminer donc sur ce même étage du musée à travers les époques. On va déjà basculer un siècle plus loin.
Oui, parce que on a voulu expliquer un petit peu comment l'homme, l'européen, en est venu à être scientifique tel qu'on l'est aujourd'hui. Et on passe maintenant dans le 18e siècle, dans notre salle des gravures. Et là, on découvre plein de gravures consacrées aux insectes. S'il y a des gravures, c'est que les naturalistes commencent à s'y intéresser sérieusement. Pas d'appareil photo à l'époque. Toute observation faite dans la nature passe par le dessin, par la gravure. Et là, par exemple, il y a le travail de Maria Sibylla Merian, une femme fascinée par les insectes, qui va nous confirmer, découvrir et confirmer la métamorphose chez les insectes à l'époque.
Et alors, au bout de ce couloir, il y a ensuite ce qu'on appelle le bureau du naturaliste. Donc on change un petit peu d'ambiance et de cadre. Et là, on est véritablement entouré d'insectes. Très concrètement, on a passé le dessin là.
Ah oui, tout à fait. Là, maintenant, vous entrez dans le musée des sciences, à partir du 19e siècle. Et on constate qu'à ce moment-là, les insectes sont extrêmement présents. C'est la grande mode au 19e siècle. Ça y est, on a découvert enfin le monde des insectes. Beaucoup de naturalistes vont être fascinés par cet univers et il va se créer des collections monumentales. Les grands musées, que ce soit Paris ou Londres, vont se battre pour savoir qui est-ce qui auront les meilleures collections, les plus grandes, les plus belles.
Donc la vôtre est déjà plutôt sympathique ici en tout cas.
Oui, c'est pas Londres, c'est pas Paris, je l'avoue, mais on a une très belle collection d'insectes européens ou d'insectes exotiques qui viennent un petit peu de partout dans le monde.
Alors ce qui est peut-être important justement, c'est qu'on dit insectes depuis le début de cette semaine, peut-être poser les bases, qu'est-ce qui est insecte et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Eh ben effectivement, qu'est-ce qui est insecte? Eh ben c'est une bête comme celle-ci, c'est-à-dire il faut avoir le corps en trois parties, une tête, un thorax, un abdomen et six pattes, s'il vous plaît. Il nous faut six pattes.
Ça veut dire que par exemple, autour de nous, on peut citer quelques insectes connus ou moins connus du grand public?
Bien sûr, on va avoir tous les papillons, qui sont bien des insectes. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de pattes là-dessous. Il y a des pattes. Elles sont au nombre de 6. Les papillons sont bien sûr des insectes. Après, si on veut récapituler un petit peu les insectes, on a tous les coléoptères, genre coccinelle, hanneton. On peut passer aussi aux hyménoptères. Ça va être les guêpes, ça va être les fourmis, enfin toutes ces bêtes qu'on n'aime pas forcément. Il va y avoir les odonates, les libellules, les diptères, les hémiptères, les orthoptères, enfin bon.
D'accord, quand on voit effectivement sur les affiches, on voit plus de 500 000 espèces, 160 000 espèces, c'est un travail colossal, c'est un monde sans fin, on en découvre finalement tous les jours.
Ah oui, mais tout à fait. Le sentiment que l'on a quand on étudie les insectes, c'est plus on les étudie, moins on les connaît, parce qu'on découvre toujours des monceaux d'espèces derrière lesquelles que l'on connaît, des techniques de reproduction. Enfin bon, tout ça, moi, ça me fascine. Je trouve cet univers du tout petit absolument exceptionnel, extraordinaire. Et puis, très important pour l'environnement, pour le fonctionnement de la planète.
Et encore très méconnu de la part du grand public.
Très méconnu de la part du grand public, parce que c'est petit, on les voit pas forcément. Et puis, on a une réaction presque automatique. C'est « j'écrase ». Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un auxiliaire ou pas du jardin, mais un petit truc qui bouge, j'ai tendance à écraser, quoi. C'est des réactions un petit peu automatiques qui sont anciennes chez l'homme et qui sont malheureuses.
Avec un autre réflexe sans doute et un autre regard quand on part d'ici.
Oui, tout à fait. Au début, quand on entre, il y a des gens qui ont un petit peu peur. Mais quand on commence à parler des techniques de défense, de comment ça se reproduit, de son rôle dans l'environnement, les gens sont époustouflés parce qu'ils n'ont jamais pensé à tout ça. Et moi, j'adore quand les gens repartent d'ici en me disant « Waouh, je regarderai plus jamais l'insecte de la même manière ».
Notre troisième rendez-vous installé ici au cœur de la Cité des Insectes à Ned, que nous découvrons grâce à notre guide directrice des lieux depuis mars 2006, Régine Elliott. Là, on est sur une troisième phase, on était sur un aspect très scientifique, sur le dernier rendez-vous, peut-être plus adulte en tout cas. Et puis là, on va vraiment s'adresser un peu plus aux enfants, même si les adultes vont largement se laisser embarquer par l'aventure. Ça se passe à l'étage du dessous, on est sur des aspects, on va dire, ludiques, interactifs et vivants également, parce qu'on n'est pas sur un musée passif du tout, hein.
Oui, cet étage-là est vraiment construit pour que tout le monde s'amuse. Hein, on entend beaucoup de bruit derrière d'ailleurs. Parce que...
Il y a des enfants. Hein.
mais pour que tout le monde s'amuse, les petits et les grands, au niveau des tableaux, le niveau d'écriture peut aussi bien toucher par les dessins les plus petits, mais les textes vont intéresser bien sûr les adultes. Et puis on a des pièces comme celle-ci, Le Criquet géant, dont du Palais de la Découverte à Paris.
Particulièrement impressionnant. Hein.
Magnifique, oui, il fait plus de 3 mètres de long. Il est interactif, on va pouvoir expliquer tous les fonctionnements internes, respiration, reproduction, tout ça. On va pouvoir expliquer tout ça en appuyant sur les boutons et la bête s'allume à la demande que l'on appuie sur les boutons. Les parties du corps dont on parle s'allument.
Très, très surprenant. Et voilà, c'est là où on dit qu'aussi les adultes se laissent embarquer parce que parfois, c'est là aussi qu'on comprend le mieux. Hein.
Voilà, ça va expliquer plein de petites choses. Et puis, on part toujours avec l'homme et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas de la même manière.
Derrière, là aussi, d'autres choses ludiques, explicatives?
Oui, c'est ce qu'on appelle notre exploratorium. Donc, c'est une grande salle avec plein de tableaux faits à la main, des peintures qui représentent les différents milieux du Limousin, la mare, l'étang, le bocage, les forêts de feuillus, avec les insectes qui existent sur les différents milieux.
Et puis, là encore, très ludique, on a encore des boutons, les enfants peuvent appuyer.
On peut toucher surtout, parce que c'est très important. C'est important pour les enfants de pouvoir toucher. Hein, on les amène dans les musées, puis on leur dit « tu te tais » et puis « tu touches pas ». Alors bon, ça va bien 5 minutes. Mais nous, on a voulu casser cette méchante habitude, on va dire, en leur proposant d'apprendre des choses sur le monde des insectes en participant, en touchant et en jouant. Et on a un vivarium avec une dizaine d'espèces d'insectes vivants en élevage.
Alors on va s'en approcher et en y allant, on tombe d'ailleurs sur une exposition.
Oui, voilà. Cette exposition, je voulais faire le lien entre l'insecte et l'homme parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Et donc, dans tout ça, on va retrouver l'insecte dans les guerres, la guerre que l'homme a fait à l'insecte, bien sûr, dans l'industrie, dans les écrits, que ce soit les écrits poétiques ou naturalistes, les croyances. Et puis surtout, la nouvelle vision que moi, je voudrais bien mettre en avant, c'est-à-dire arrêtons de voir les insectes comme que des bêtes à abattre. Nombreux sont utiles, importants, ils ont tous un rôle dans l'environnement. Mais en plus, il y en a qu'on peut réellement utiliser dans le potager. Et puis, bien sûr, on mange l'insecte partout sur la planète, sauf en Europe et en Amérique du Nord.
On aura encore un peu du nez chez nous. Hein.
Ouais, ouais. Mais je peux vous dire que pour mes conférences, tout le monde goûte et les gens sont étonnés. Bien sûr que c'est bon, bien sûr que ça se mange. Donc c'est un thème aussi qui est riche à la Cité des Insectes et qu'on aborde très régulièrement, mais aussi dans la robotique, l'entomologie criminelle. Tout ça est expliqué dans cette exposition.
Tout le monde regarde les experts et les insectes participent activement aux enquêtes des experts.
Merci aux experts.
Qui sont une aide précieuse et qui nous conduisent donc quelques marches plus loin à cet espace vivant qui se trouve à l'intérieur avant celui que nous verrons en extérieur.
Oui, donc là nous sommes dans la salle d'élevage, dans le vivarium. Nous présentons au public une dizaine d'espèces vivantes dans des vivariums. Donc nous avons bien sûr, je vous ai dit que j'étais amoureuse des insectes, mais des phasmes. Donc on a de nombreuses espèces de phasmes, phasmes bâtons, que nombreux sont les gens qui connaissent parce qu'on les trouve ceux-là en Europe, ils sont bien de chez nous.
Là, si on ne fait pas attention, si on n'est pas peut-être dans cet univers, on ne voit même pas qu'il y a des insectes accrochés au branchage.
Hein. Tout à fait, c'est pour ça que peu de gens aussi les connaissent en Europe, parce qu'ils se cachent très bien et qu'on passe souvent à côté sans jamais les voir, ça ressemble à une petite branche. Donc dans la haie, vous ne le voyez pas.
Donc c'est vraiment surprenant, et ça permet après de regarder la nature vraiment d'une manière très très différente. Un petit peu plus loin, d'autres espèces.
Donc là, bien sûr, un autre phasme, le Tiaratum phasmatia, magnifique. Alors lui, il ressemble plutôt à une ronce morte, une feuille morte avec des épines. Mais aussi, vous voyez cet abdomen qu'il retourne comme ça lui donne l'apparence d'un scorpion. Et ça, c'est pour faire peur aux prédateurs potentiels. Il ne mord pas, il ne pique pas, il se déplace très lentement. La seule chose qu'il a pour se défendre, lui, c'est son apparence.
Voilà, respiration, c'est l'avantage, et qu'on a vraiment, on peut prendre le temps de décrypter ces insectes, c'est absolument captivant. Hein.
Oui, oui, ils sont superbes.
Donc avec d'autres petits camarades autour, évidemment, il faudra venir les découvrir. Hein.
On va avoir des carnassiers comme les mantes religieuses, on va avoir des mangeurs de légumes comme les mille-pattes, on va avoir des mangeurs de fruits comme les coléoptères, certaines cétoines magnifiques. Donc oui, de quoi découvrir un univers bien large.
Il y a de quoi faire, il faut venir directement ici. Puis il y a ceux qu'on va aller découvrir directement dans leur univers naturel, c'est-à-dire en extérieur. Et ça, c'est ce que nous ferons le temps de s'équiper dans notre prochain rendez-vous. Déjà notre avant-dernier rendez-vous au sein de la Cité des Insectes à Ned, ici en compagnie de Régine Elliott, directrice des lieux. On rappelle, hein, naissance de ce site depuis mars 2006, un site naturel vraiment exceptionnel. Là justement, ben, on a quitté l'intérieur et les 400 mètres carrés pour passer aux 8000 mètres carrés que l'on découvre ici. On est à proximité de ce jardin cultivé. Quel est son intérêt? C'est replacer finalement l'insecte au cœur de son élément, de son état naturel?
Oui, bien sûr, les extérieurs vont nous permettre de découvrir les espèces du territoire sur leur milieu naturel, et surtout ça nous permet encore une fois de faire de la pédagogie avec tous nos publics, c'est de dire que l'insecte peut être présent dans les jardins sans que ça pose de gros problèmes. Hein, si on le gère correctement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un jardin potager, j'ai des herbes aromatiques médicinales, j'ai des fleurs dans mon potager, et tout ça pousse en harmonie avec les insectes, j'allais dire, puisque bien sûr qu'on ne met aucun pesticide dans les jardins chez nous.
Finalement, ils sont peut-être pas les meilleurs amis de l'homme, mais pas loin.
Mais oui, bien sûr, parce qu'il va y avoir les pollinisateurs qui vont nous rendre de grands services, mais tous les autres, les carnassiers qui vont se manger entre eux et qui vont nous permettre de nous libérer des limaces et d'autres petites bêtes, hein, des pucerons et tout ça, et puis de nettoyer et d'entretenir en permanence nos milieux.
Ils font peur à l'homme, mais ils n'ont pas, en revanche, trop peur de l'homme. Ils viennent assez spontanément.
Bah, ils sont chez eux, quoi. C'est nous qui marchons sur leur milieu, on va dire. Donc, le papillon va s'envoler si vous approchez de la fleur. Mais si vous faites tout ça en douceur, vous pouvez vraiment vous approcher d'eux souvent.
On en profite pour également avoir quelques informations sur la végétation, si d'une manière générale.
Oui, voilà, dans les jardins, vous allez retrouver des tableaux comme celui-ci qui va permettre de découvrir le milieu avec les différents insectes qui existent sur le milieu. Mais il va y avoir des tableaux aussi de la signalétique pour les plantes, pour parler de pourquoi ces plantes sont là et qu'est-ce qu'elles font et leur rapport aussi à l'insecte. Il va y avoir des tableaux aussi qui sont un peu plus poétiques, qui vont nous raconter des poésies ou des contes et d'autres petites histoires sur les insectes et les plantes.
Derrière nous, ça c'est l'amphithéâtre, donc là quand la météo permet, bah, c'est vraiment des moments magnifiques, on est vraiment plein cœur de la nature pour parler des insectes et de la nature.
Et oui, on a cet amphithéâtre qui est au cœur des jardins et qui permet d'asseoir 200 personnes, donc des groupes assez conséquents, et qui vont être utilisés pour faire l'atelier pédagogique, pour faire commencer des visites guidées, pour faire les conférences, certaines explications de la nature vont se passer ici au milieu des jardins. C'est quand même le meilleur endroit.
Et puis un petit peu au-dessus, donc là on a des jardins naturels.
Jardins naturels, bien sûr, où là bien sûr la tondeuse ne passe pas et certains outils agresseurs ne passent pas. On laisse pousser les plantes et il y a aussi une mare qui va permettre avec son ruisseau d'observer les aquatiques, les insectes aquatiques, parce que les insectes on les retrouve aussi dans l'eau. Au fond du jardin, le rucher avec quelques ruches, hein, et puis après on passe de l'autre côté où il y a encore un autre jardin cultivé et le théâtre. Puis à l'extérieur dans le jardin, eh bien on a la chance que les fourmis des bois nous aient choisi et deux fourmilières se sont installées sur nos jardins.
Alors donc, ça, on le découvre ici.
Oui, on va pouvoir s'approcher sous ce grand sapin, lieu idéal pour la première fourmilière, hein, fourmis des bois, fourmis rousses, et elle est installée ici depuis une quinzaine d'années. Et nous en avons une autre un petit peu plus loin là-bas, qui est la petite sœur de celle-ci. Hein, c'est-à-dire les fourmilières se dédoublent comme ça. Et elle a 4 ans, cette nouvelle fourmilière. Et ces deux fourmilières vont nous permettre de les observer après le musée, dans la nature, et d'expliquer, de voir en réel. Dedans, c'est du réel, parce que c'est du vivant, mais c'est quand même dans un milieu clos. Alors que là, c'est comme dans nos forêts, on n'y touche pas, on ne fait rien, on observe seulement.
D'une manière générale, on le voit, c'est un musée qui est très pédagogique, et ces ateliers pédagogiques, c'est également très important pour vous, c'est une vraie volonté ici.
Ah oui, bien sûr, communiquer et transmettre aux enfants. En plus, c'est un âge, les enfants de la maternelle au CM2, voire les lycées et collèges, c'est des âges où l'insecte est fascinant. On oublie un petit peu après quand on est adulte. Donc on propose beaucoup, beaucoup d'ateliers pédagogiques et les écoles viennent chez nous pour qu'on parle avec les enfants et qu'on leur communique une partie de notre savoir sur les petites bêtes.
Et puis c'est vrai qu'on est dans un cadre absolument magnifique aussi. Le choix d'installer cette cité des insectes ici n'a pas été fait au hasard, on l'a dit en début de semaine. Et c'est vraiment un site qui, à lui seul, vaut vraiment le détour. C'est apaisant, c'est un moment, une petite parenthèse, on va dire, dans la vie.
Alors, je dis toujours, on est sur une petite île, en fait, en haut de la montagne, à 650 mètres sur le plateau des Mille Vaches, en pleine forêt. C'est calme, c'est magnifique. Pour l'observation des petites bêtes, c'est extraordinaire. On est sur des milieux protégés, on est dans le silence. Donc, c'est vraiment un endroit magique.
Juste dérangé par le bruit des oiseaux et on ne leur en veut absolument pas.
Exactement, les oiseaux chantent et ça, c'est plutôt bon signe.
Et nous voilà arrivés au terme de notre semaine consacrée à la Cité des Insectes que nous avons découvert depuis lundi grâce à Régine Elliott. Nous sommes toujours ici à Ned, forcément dans ce site ouvert en mars 2006. On est revenu finalement à notre point de départ, c'est ce cabinet des curiosités derrière lequel, au fond duquel, on trouve une partie exposition. Je voulais justement qu'on termine avec les animations parce qu'on l'a dit, c'est très ludique ici, il se passe beaucoup de choses et il y a notamment le terme de rencontre qui pour vous est extrêmement important.
Oui, nous organisons justement pour notre public, des résidences d'artistes et naturalistes, on les appelle des résidences croisées d'artistes et naturalistes. Chaque année, il peut y en avoir 2, 3 ou 4, ça va dépendre des projets et des années. Là, cette année, nous avons le travail de Patrice Lefebvre qui est exposé dans l'entrée du cabinet des curiosités, toute son installation. Il nous a un peu provoqué, Patrice Lefebvre, il a voulu réintégrer dans notre musée les espèces que les gestionnaires de musées n'aiment pas voir, c'est-à-dire les papivores, les xylophages, les mangeurs de peaux mortes, enfin toutes ces petites bêtes qui naturellement mangent les collections des musées. Donc lui, il nous les a ramenées sous forme de dessin, ça va, on n'a pas trop crié. Et puis une installation avec du vivant à l'intérieur, un nid de Messors barbarus, ce sont des fourmis. Il espère que les Messors barbarus, les fourmis qu'il a mis à l'intérieur, vont manger une partie de ce cabinet des curiosités.
Pour illustrer leur véritable travail.
Voilà. Et puis une installation sonore qui nous permet d'entendre le son de l'horloge de la mort. C'est un petit insecte. Si vous voulez en savoir plus, il faut venir voir.
Évidemment. Il y a également des conférences tout au long de l'année, des partenariats également.
Oui, beaucoup de conférences qui jalonnent toute notre période d'ouverture. Des conférences soit faites par moi-même, comme les insectes protéines du futur avec dégustation d'insectes, mais aussi des conférences faites par des naturalistes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, on a un partenariat avec le Centre de la Loutre, Jean-Jacques Rabache qui vient régulièrement chaque année traiter certains thèmes. On a d'autres partenariats avec une naturopathe, par exemple, Nadia Castano, qui vient faire des conférences au public. La Société mycologique du Limousin vient une fois par an, au mois de septembre-octobre, pour faire une sortie avec le public, une sortie à la journée. Le matin, on va chercher des champignons, on revient sur le site pour le pique-nique, et l'après-midi, ils organisent l'exposition, et ils nomment et ils nous racontent plein de choses fantastiques sur les champignons. Donc c'est ce type de rencontre que l'on fait ici. Et donc on va traiter tout un tas de thèmes qui vont tourner autour de ce triangle, on va dire homme, insecte, environnement.
Je pense qu'on aura bien compris tout au long de la semaine, c'est vraiment à destination de tous les publics, on s'intéresse aux enfants, on peut venir avec des écoles, on ne faut pas hésiter à vous contacter pour prendre rendez-vous bien sûr, sinon on vient librement. C'est ouvert à partir de la fin du mois de mars ce musée?
Oui, c'est les dates à peu près approximatives. C'est ouvert 7 jours sur 7, de 10h30 à 19h.
Toujours de nouvelles choses à découvrir ici. Pour ceux qui sont déjà venus, il faut revenir.
Exactement. Chaque année apporte des nouveautés. Comme cette année aussi, les anniversaires organisés pour les enfants, par exemple. Donc toujours des nouvelles choses à découvrir.
Pour vous contacter, c'est simple. Il y a tout, téléphone, il y a le mail.
Oui, bien sûr. 05 55 04 02 55 pour le téléphone. Pour le site internet www.lacitedesinsectes.com et le mail info@lacitedesinsectes.com.
Donc, c'est-à-dire que l'univers de l'infiniment petit, finalement, est infiniment grand.
Exactement. C'est beaucoup de choses à découvrir, donc c'est jamais fini.
Et un autre regard, au final, sur ce qui nous entoure.
Oui, c'est notre objectif, sensibiliser notre public eh bien, à un univers fantastique que l'on a sous nos pieds et qu'il ne faut pas nier et oublier.